Chapitre 45. Bien que le ciel renvoie encore une lueur restreinte, la forêt environnante est d'un noir impénétrable lorsque Parissa ralentit dans une longue descente. Elle tourne prudemment à droite et s'engage sur une piste qui longe un terrain pentu en bas duquel gît une épave de voiture. Elle pense à l'homme grand qui est venu chez elle, porteur d'un message de Dag Avan Halak. Il a dit que son mari venait d'être transféré à Kumla, mais qu'il ne le connaissait pas vraiment. Salim a probablement été obligé de faire passer son message par le premier qui partait en permission. Il lui avait donné un code signifiant qu'il était une personne dont la loyauté n'était pas garantie, mais qu'elle devait écouter ce qu'il avait à dire. Elle avait su qu'il était armé, mais la panique ne s'était emparée d'elle que lorsqu'elle avait aperçu le tireur d'élite depuis la fenêtre de la cuisine. Il se tenait embusqué à l'étage dans la maison d'en face, une fenêtre entr'ouverte, un cercle noir et un autre brillant, la bouche d'un canon et une lunette de visée. Impossible de savoir si l'homme blond était au courant de la présence du tireur, s'ils travaillaient ensemble ou pas. En réalité, c'était peut-être le messager que le tireur cherchait à atteindre. Les pensées fusent en tous sens dans sa tête. Elle ne comprend pas les tenants et les aboutissants, mais pour l'instant, sa sœur est la seule chose qui compte. Après avoir forcé l'homme à sortir de la voiture, elle a appelé le numéro qu'il lui avait donné et son appel a été automatiquement redirigé. De nouvelles sonneries ont retenti, et après un long moment, un homme parlant une langue slave a répondu. Elle a demandé s'il parlait anglais, et il a répondu « évidemment ». Le gravier crisse sous les pneus et les arbres autour de la voiture forment une obscurité ondoyante. Un petit ruisseau scintille dans la lumière des phares. Parissa a inspiré profondément, avant de demander à l'homme où se trouvait sa petite sœur, Amira. Elle lui a expliqué que cette dernière faisait partie du groupe de Shebergan qui était attendu en Suède mercredi prochain. L'homme a parlé à quelqu'un dans la pièce, puis a répondu que le trajet par la Biélorussie et la Finlande avait été plus rapide que d'habitude et que le groupe était arrivé au lieu de rencontre avec 5 jours d'avance. Sa sœur est déjà en Suède. Amira l'attend depuis 3 jours et Parissa n'a pas été informée. La forêt s'ouvre sur le ciel nocturne plus clair et la mer en contrebas. Parissa traverse un carrefour et descend vers un chantier naval pour bateaux de plaisance. Un grand hangar en tôle ondulée se dresse au-dessus des contours flous de plus d'une centaine de bateaux sur cale, des voiliers hauts avec des quilles énormes et des bateaux à moteur élégant, fuselés comme des flèches. La lumière sortant des fenêtres d'une baraque en bois brut éclaire un panneau portant l'inscription « Chantier naval de Nuboda ». Parissa se gare en marche arrière contre le mur. Quand elle descend de la voiture, elle sent le vent marin frais à travers ses vêtements. Elle n'est vêtue que d'un pull en laine et d'un pantalon de jogging brillant, et elle est pieds nus dans ses chaussures de sport. Des bâches frappent contre des coques de bateau, et la corde du mât de pavillon dans la cour claque contre le bois à un rythme régulier, comme si quelqu'un courait sur un plancher avec des chaussures à talons. Elle aperçoit un mouvement derrière le rideau défraîchi du petit bâtiment. Un étroit sentier de gravier descend vers l'eau et les pontons, passant entre le haut mur du hangar et les rangées de bateaux. Parissa prend son sac après y avoir glissé le pistolet, le met à l'épaule et monte l'escalier branlant du cabanon. Elle frappe à la porte, attend quelques secondes avant d'ouvrir et d'entrer. Elle se trouve dans un bureau avec des cartes marines agrafées directement au mur. Assis à une table de travail, un responsable qui paraît avoir dépassé les 70 ans est en train de trier des reçus. Une femme du même âge tricote, installée dans un fauteuil en rotin. L'homme est vêtu d'une chemise à manches courtes, ses avant-bras poilus reposent sur la table. Autour de son poignet pend une montre en or terni. La femme laisse son ouvrage retomber sur ses genoux et pose un regard interrogateur sur Parissa. « Je suis venu chercher ma sœur, elle s'appelle Amira. » Le gérant passe la main sur son crâne d'œuf et la prie de prendre place. Parissa s'assied et entend le petit cliquetis derrière son dos quand la femme reprend son tricot.
« On commençait presque à croire que personne ne viendrait cueillir les derniers, » dit-il avec une intonation bizarre, pendant qu'il attrape un classeur sur le bureau.
« Elle ne devait pas arriver avant mercredi, » fait remarquer sèchement Parissa.
« Ah bon, eh bien, toujours est-il que ça coûtera un peu plus du coup, » poursuit-il distraitement.
Il se lèche un doigt et se met à feuilleter parmi les récépissés du classeur.
« Mais tout est déjà réglé. »«
Oui, si vous étiez venu la chercher dès son arrivée. »
Elle n'a pas l'intention de payer ? Demande l'épouse inquiète.
Mais si, logement, repas, frais liés aux besoins sanitaires et frais administratifs sur 3 jours.
Il sort un feuillet rose du classeur. En entendant son mari pianoter des chiffres sur une calculette, la femme se remet à tricoter. Les bruits aigus d'une ponceuse traversent les murs. L'homme passe sa langue sur ses lèvres ridées, s'adosse dans le fauteuil de bureau et tourne la calculette vers Parissa.
32 300 couronnes.
32 000?
On gère cette marina avec nos 3 fils, on ne peut pas se permettre de faire œuvre de charité. Nos marges sont trop faibles, malheureusement, explique-t-il.
Vous prenez les cartes ? Demande Parissa tout en sachant qu'elle n'a pas autant d'argent sur son compte.
Non, sourit-il.
Je n'ai pas de liquide sur moi.
Alors, ma petite dame, il faut aller à Okersberga et retirer de l'argent. Mais n'oubliez pas que plus elle reste ici, plus la dette augmente.
Je dois lui parler d'abord.
Si on commence à faire des exceptions, on n'est pas...
C'est ma sœur, insiste Parissa en élevant la voix. Vous comprenez ? Elle a réussi à venir jusqu'ici. Elle ne parle pas un mot de suédois, il faut que je la voie.
Cela vous contrarie, soit, mais ce n'est pas de notre faute si vous n'êtes pas venu la chercher.
Dites-moi simplement où elle se trouve, l'interrompt-elle. Puis elle se dirige résolument vers la porte et sort.
Attendez, madame, on va régler ça, lâche le gérant derrière elle.
Parissa descend l'escalier et se précipite sur l'étroit chemin de gravier entre les bateaux sur cale et le grand atelier. Tout en bas, elle voit se détacher contre les nuages agités une grue que le vent fait trembler. Des vagues écumantes frappent les rochers et une rampe de mise à l'eau. Elle marche aussi vite qu'elle peut en direction d'une lueur derrière les plastiques qui recouvrent quelques bateaux. Par un caprice de la mémoire, une odeur d'huile chaude la ramène en Afghanistan. Elle est transportée dans l'atelier mécanique où travaillaient son père et son grand-père, près de la rivière Safedroud, à Shebergan.
« Amira ? »
lance-t-elle dans la nuit.
« Amira !»